France Musique.
Merci à vous, Christophe Bourseiller. À dimanche prochain à 17h pour un nouveau numéro de Musicus Politicus. Les menus plaisirs de Bruno Mantovani. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans ces menus plaisirs. Quand vous demandez à un citoyen de notre beau pays de vous citer deux noms de chefs d'orchestre, en général, les deux réponses commencent par la syllabe K. D'un côté, il y a Karajan, de l'autre côté, il y a Kazatsu. Si le premier de ces deux génies aimait conduire les orchestres les yeux fermés dans une forme de repli sur soi, le second génie, lui, incarne l'ouverture à l'autre. Les deux stars ont en commun une exigence poussée à son paroxysme et un sens authentique de la sensualité et du plaisir, ce qui tombe bien pour cette émission. Il y a autre chose qui réunit ces deux géants. Le premier, autrichien, faisait des miracles dans la musique française, alors que le second, bien français malgré ses ascendances catalanes, est un interprète incomparable dans Mahler. Les deux incarnent donc une forme d'universalité en musique. Si je n'ai pas eu le privilège de rencontrer le premier, le second est un de mes amis proches avec lequel j'ai eu la joie de travailler et qui m'a maintes fois bouleversé par son talent, certes, mais aussi par un aspect qui le différencie de son illustre collègue, sa volonté de ne pas garder la musique pour un cercle de privilégiés, mais bien de la faire partager au plus grand nombre. Cette idée que la musique classique est un art qui doit être offert à tous nous paraît évidente aujourd'hui, à l'heure du sistema vénézuélien qui permet aux plus démunis d'apprendre à jouer d'un instrument, et à l'heure de la Philharmonie de Paris qui remporte le pari de l'élargissement du public. Mais le précurseur de cette idéologie saine et généreuse, il est là, devant moi, lui qui a fondé l'Orchestre National de Lille en allant draguer le moindre spectateur potentiel de ses concerts pour lui dire que non, Beethoven et Schumann n'étaient pas réservés aux plus fortunés des nordistes, mais bien accessibles à tous. Il est avec nous, donc, 40 ans après, toujours fringant, plein de projets, défendant avec un enthousiasme juvénile la symphonie fantastique et la création contemporaine. Je suis heureux d'accueillir pour parler du plaisir en musique notre icône de la direction d'orchestre à la française, mon cher Jean-Claude Kazatsu. Bonjour Jean-Claude.
Cher Bruno, je ne sais plus où me mettre. Là, je passe sous la table parce que vraiment, ma modestie se trouve extraordinairement... C'est un peu exagéré, non?
Mais absolument pas, d'ailleurs. De toute façon, même si vous ne savez pas où vous mettre, il ne faut surtout pas sortir de ce studio parce que nous avons besoin de vous pendant une heure. De vous pour parler du plaisir, mais aussi de vous en tant que musicien. On va faire une petite exception dans le principe de ce programme. C'est que pour une fois, mon invité va être aussi l'interprète de toutes les œuvres que nous allons écouter. Et on va commencer par une œuvre fondamentale, peut-être aussi parce que vous avez un passé de percussionniste, qui est la danse sacrale du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky.
Ça, c'est une grande joie et j'avais eu le privilège de la travailler avec notre ami commun Pierre Boulez, dont j'ai été... un soliste quand il était au domaine musical, mais ensuite un de ses élèves à son cours, je dirais, mythique de Bâle. Et on avait travaillé, la première fois que j'ai travaillé le Sacre du Printemps, c'était avec lui. Ensuite, j'ai eu l'occasion de la diriger plusieurs fois et de l'enregistrer.
Vous qui êtes un interprète qui, justement, ne fuit pas les grandes partitions du répertoire, comment, justement, après avoir travaillé avec Boulez lui-même, ayant été un proche de Stravinsky, vous abordez une telle œuvre en vous disant je vais peut-être apporter ma pierre à un édifice qui est déjà conséquent.
Non, vous savez, notre métier impose l'attention au texte. Tout est en principe écrit, et Stravinsky d'ailleurs lui-même, que j'ai le privilège de rencontrer à la fin de sa vie, en 69-70, j'avais été présenté à lui par Béjart, et il disait que ce qui est écrit, rien que ce qui est écrit, n'exprimait rien d'autre. Mais c'est vrai que le grand art dans notre métier, c'est d'essayer de jouer ce qu'il y a entre les notes. Et entre les notes, il y a beaucoup de choses. Mais par contre, il y a une structure, il y a un code de la route, il y a des indications extrêmement précises. Et il faut avoir, je crois, la modestie d'essayer de se glisser dans les habits du compositeur et d'avoir une pensée du son. Et cette pensée du son doit rejoindre la pensée du compositeur. Vous savez, j'ai une devise, moi, c'est servir, oser, transmettre et obtenir. Servir, c'est servir les compositeurs. Oser, c'est s'autoriser quelques transgressions qu'on croit positives, un silence un peu plus long, un rythme un peu plus affirmé. transmettre, la musique nous transmet quelque chose, nous la transmettons à l'orchestre et nous la transmettons au public, et la chose la plus compliquée, c'est d'obtenir. Donc il faut avoir une conception, on ne peut pas aborder une œuvre sans conception, mais elle est dictée par l'écriture du compositeur auquel on doit d'apporter toute notre attention.
We'll be right back.
on va peut-être pas passer une heure à vous faire des compliments tout le temps,
non,
cher Jean-Claude.
Non, surtout pas, c'est très fastidieux. Puis alors, vous savez, un artiste qui cesse de douter, cesse de progresser. Donc il faut essayer de se fustiger de temps en temps.
Mais n'empêche, on peut quand même avoir quelques convictions quand on est artiste. Et je pense que ça fait beaucoup de bien d'écouter cette fin du sacre. Pas trop vite, pas dans cette mode des TGV actuels où, comme pour le Boléro, maintenant on entend des choses absolument hallucinantes qui relèvent d'une pyrotechnie un petit peu vide. Là, on était dans une espèce de, je dirais, de choses très organiques et d'humanité très, très russe finalement.
Mais vous savez, c'est écrit. Il a écrit 126 à la double croche. Enfin, là, voilà. Il suffit d'essayer de se pencher sur l'aspect rituel, l'aspect extraordinairement, comment est-ce que je pourrais dire, oui, vous parlez d'organique, c'est une chose qui est fondamentale dans la musique, c'est d'avoir une pulsation, comme dans le jazz, qui groove. Il faut que le cheval soit en petit galop de chasse et pas absolument lancé dans un galop qui risque de le faire trébucher sur l'obstacle. Parce que ça sonne et on donne de l'oxygène aux notes. Et ça, je crois que c'est important, à condition d'avoir un rythme qui soit absolument intransigeant.
J'ai évidemment oublié de dire qu'il s'agissait de l'Orchestre National de Lille, mais la chose est tellement évidente pour tout le monde, tant cet orchestre vous est assimilé, ce qui ne vous empêche pas d'aller diriger des phalanges ailleurs en France et à l'étranger. Mais cet Orchestre de Lille, vous l'avez aussi façonné dans cet équilibre entre quelque chose qui, justement, qui relève du rythme dans ce qu'il a de plus pulsionnel, et quelque chose au contraire de très lyrique et de très expansif, avec un son souvent très généreux.
Vous savez, c'est une belle aventure. On est parti de rien. Et puis, ce qu'on ne marque pas dans les contrats, c'est l'esprit. Nous sommes dans une région qui n'avait pas eu le temps de se pencher à l'époque sur sa culture, qui n'avait pas de vie symphonique. Et je crois qu'on a un petit peu tracé un chemin qui a permis aujourd'hui le Louvre-Lens, qui a permis Lille 2004, capitale européenne de la culture, qui a permis des grandes ouvertures, les musées, le théâtre, l'opéra. Et en même temps, d'aller porter la musique, ce qui est aussi une autre de mes devises, partout où elle peut être entendue dignement. C'est-à-dire dans les endroits les plus reculés, 250 villes ou villages du Nord-Pas-de-Calais, mais 32 pays dans le monde. Et musiciens ont un esprit jeune, ils ont compris aussi que les 15 000 enfants dont on s'occupe par an, c'est la nécessité de nourrir les viviers de mélomanes de demain, et que la musique, c'est un engagement qui doit vous obliger à se dire on doit être meilleur demain qu'hier. Et donc, la rigueur doit déboucher sur la liberté, pas sur l'anarchie, puisque la liberté, c'est au fond la rigueur maîtrisée. Et il n'y a pas de grandes interprétations sans liberté, mais à partir de ce que je vous disais tout à l'heure, le respect de ce qu'ont écrit les compositeurs.
Je voudrais ajouter qu'il ne s'agit pas aussi pour vous d'amener des musiques faciles à tout le monde, mais quelquefois des musiques les plus complexes. Et on va vous écouter dans un extrait de La Valkyrie de Richard Wagner, avec Anya Camp et Gary Lehmann, qui sont les voix qui vont porter ce duo absolument extraordinaire que l'on va écouter tout de suite.
Lass mich gestehen. Sure.
Nous étions en direct de Bayreuth en Barreuil ou de Bayreuth en Goël, enfin quelque chose comme ça. Mais on était quelque part vers Lille finalement, Lille qui avait accueilli tout l'esprit wagnérien à travers Anja Kamp et Gary Lehmann et surtout l'Orchestre National de Lille sous votre direction, cher Jean-Claude Casadesus.
C'est un grand moment d'émotion parce que tout d'un coup, il y a une espèce d'univers qui s'ouvre et on se dit, voilà, avec beaucoup de modestie, beaucoup de travail, des artistes de cette qualité, on peut transcender l'émotion.
Hors antenne, nous commentions un petit peu à la fois les tensions harmoniques et puis la fusion entre les voix, les instruments chez Wagner. Il y a quelque chose aussi de très ambigu entre ce qu'est la mélodie, ce qu'est le contrepoint, ce qu'est le rythme, ce qu'est la ligne. Une espèce de cohérence de tous ces éléments qui est une chose confondante et qui peut-être trouve son paroxysme chez Wagner d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il y a un chromatisme constant que d'ailleurs détestait Stravinsky parce qu'il disait on ne sait pas où on est. Voilà, il avait envie de sa rigueur le conduisait à plus de comment dirais-je de cartésianisme si j'ose dire. Mais Wagner vous emporte. C'est un univers hypnotique. Il y a quelque chose qui vous soulève complètement et qui est d'une très très grande exigence dans l'étude pour trouver justement le legato intérieur, sans dureté, l'onctuosité, l'énergie et la puissance sans la lourdeur. Voilà, tout ça n'est pas simple, parce qu'il y a un équilibre des tempi qui est extraordinairement important, une énergie qu'il faut en permanence vitaliser, et tout d'un coup changer pour aborder des climats arachnéens. Enfin voilà, c'est tout un projet, mais qui vous élève et qui vous soulève, en tant qu'artiste musicien, je veux dire.
Alors vous élevez, vous soulevez avec des œuvres aussi emblématiques, aussi... je dirais anthologique, que la Valkyrie, mais aussi avec des chefs-d'œuvre plus méconnus ou des œuvres plus expérimentales. Et notamment, on avait envie d'écouter ensemble le trio final de Clovis et Clotilde de Bizet que vous avez enregistré avec l'Orchestre de Lille.
Ça, c'est une aventure. J'ai découvert sur l'indication de mes amis au moment du 500e anniversaire de Clovis, à la Bibliothèque nationale, cette cantate que personne ne connaissait depuis qu'elle avait été jouée pour le prix de Rome de Bizet. Il avait 19 ans. Alors c'est merveilleusement kitsch, c'est à la limite pompier, et on sent la patte mélodique, la formidable, comment dirais-je, motricité des notes presque rossiniennes, mendelssohniennes et schubertiennes, déjà en préfiguration chez Bizet, qu'on retrouvera plus tard, en effet, dans sa symphonie en ut, pas plus tard, puisqu'il l'avait écrite avant, à 17 ans, et plus tard dans Carmen, et voilà, petit génie merveilleux de l'époque. Et c'est un petit bijou qui me ravit, que nous jouons d'ailleurs dans quelques jours à la Philharmonie à Paris.
Alors il y avait un dessinateur qui s'appelait Peyo, qui avait fait les Schtroumpfs notamment, qui disait qu'il fallait donner les meilleurs pinceaux, les meilleurs crayons aux enfants. Eh bien vous, pour cette musique un petit peu jeune, vous avez quand même décidé d'inviter des chanteurs comme Boris Martinovitch, Gérard Garino et Montserrat Caballé pour défendre ce final de Clovis et Clotilde. Oh, c'était Georges Berlioz ou Hector Bizet, je ne sais plus. Non, je crois que c'est vraiment de Bizet, la cantate que Clovis et Clotilde que vous dirigez à la tête de votre orchestre, l'Orchestre National de Lille. Ce petit bijou très ambigu, une musique très jeune qui ne sait pas encore où elle est, mais qui est déjà quelque part.
Mais qui a déjà une conscience extraordinaire de sa pensée à lui, du son dont on parlait tout à l'heure, et qui est surtout qui a une énergie insensée. Quoi. Il y a une espèce de vitalité dans cette musique, celle d'un jeune homme de 19 ans, solaire, méditerranéen, et qui nous offrira Carmen dans quelques années.
France Musique. Alors, si nous avons pu commencer cette émission en écoutant Wagner et Stravinsky, nous allons nous recentrer un petit peu sur la musique française, la plus difficile du monde à exécuter, selon vos propres paroles, et avec un chef-d'œuvre absolu, Péléas et Mélisande.
Debussy, immense admiration. Et en même temps, j'étais impressionné pendant des années en me disant « Oh là là, c'est vraiment un univers aussi où il faut beaucoup de cicatrices maîtrisées pour le pénétrer et beaucoup de recul et d'expérience. » Et nous avons enregistré en live, d'ailleurs, cet opéra mythique avec l'orchestre, avec Mireille Delunch et Gérard Teruel. Et c'est vraiment, vous avez raison, c'est un des sommets de la musique. Il faut sortir complètement les notes de leur univers carcéral. Il faut donner le sentiment que la musique s'écoule comme une chose naturelle. Un tout petit peu comme ce que Mahler avait dit dans Le Chant de la Terre, dont d'ailleurs je vais probablement sortir assez rapidement un enregistrement. Il dit « Je me demande comment on pourra diriger cette abside, la fin de l'abside du Chant de la Terre ». Et dans Péléas, il y a des moments où on se dit « Mais comment est-ce qu'on peut diriger ça ? Il faut laisser la musique s'exprimer, mais il faut lui donner tout de même une structure. Et il faut surtout, comme vous le disiez si bien, aucune redondance, aucun maniérisme. » Et comme disait le philosophe Solon, quand on lui demandait en trois mots une définition de l'art et de la musique, et ça s'applique parfaitement à la musique française, rien de trop.
C'est le dernier soir, il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. J'ai joué en rêve autour des pièges de la destinée. Qui est-ce qui m'a réveillé tout à coup? Je vais fuir en criant de joie et de douleur comme un aveugle qui fuirait l'incendie de sa maison. Il est tard, elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller sans la revoir. Il faut que je la regarde bien cette fois-ci. Il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait par moments qu'il y a 100 ans que je ne l'ai plus vue. Pas encore regardé son regard. Il ne me reste rien si je m'en vais ainsi, et tous ces souvenirs, c'est comme si j'emportais un peu d'eau dans un sac de mousseline. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit.
Péléas.
Mélisande, est-ce toi, Mélisande?
Oui.
Viens ici. Ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici, dans l'ombre du tilleul.
Laissez-moi dans la clarté.
On pourrait nous voir des fenêtres de la cour. Viens ici, ici nous n'avons rien à craindre. Prends garde, on pourrait nous voir.
Je vais qu'on me voie.
Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu.
Votre frère dormait.
Il est tard, dans une heure on fermera les portes. Il faut J'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore en baleine comme un oiseau pourchassé. C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi.
Pourriez-vous ?
Je ne ris pas, bien je ris de joie sans le savoir. Jusqu'ici, on dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement, comme un ange qu'on interroge. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimes-tu ? Est-ce vrai ce que tu dis ? Tu ne me trompes pas, tu ne mens pas un peu pour me faire sourire.
Non, je ne mens jamais, je ne mens qu'à ton frère.
Oh, comme tu dis cela, ta voix, ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que moi. On dirait de l'eau pure sur mes lèvres. On dirait de l'eau pure sur mes mains. Donne-moi tes mains. Oh, tes mains sont petites. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien. Avant toi,
qui est. Je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je l'ai trouvée, je l'ai trouvée. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. Regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre. Viens dans la lumière. Nous ne pouvons pas voir combien nous sommes heureux. Viens, viens, il nous reste si peu.
Il est derrière un arbre.
Qui?
Goulot.
Je ne vois rien.
Là, au bout de nos ombres.
Oui, oui, je l'ai vu. Ne nous retournons pas plus.
Il a son épée.
Ce n'est pas la mienne.
Il a vu que nous nous embrassons.
Il ne sait pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas, ne tourne pas la tête, il se précipiterait. Il nous observe, il est encore immobile. Va-t'en, va-t'en, tout de suite, par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai.
Oh,
va-t'en,
oh,
il a trouvé, il nous tuera.
Oh,
il le vient.
Ça reste quand même quelque chose de totalement bouleversant. On a beau dire que le livret de Péléas est daté, qu'il y a une dramaturgie très contemplative, cette scène qui est absolument déchirante entre Péléas ici, Gérard Teruel, et Mélisande, Mireille Delunche, accompagnée par l'Orchestre National de Lille que vous dirigez, est quand même un moment qui est totalement irrésistible.
Écoutez, on comprend que Debussy ait adoré Wagner à une époque, et on comprend qu'il s'en soit éloigné par la suite, mais au fond, il y a une pensée, à l'inverse de Wagner, mais avec l'énoncé dramatique de tout ce que... Il arrive à transcender le texte littéraire avec sa musique, que, comme vous le dites, est un petit peu, en effet, qui n'est pas forcément à la hauteur de l'émotion de la musique, mais il condense, Wagner développe, Debussy condense. En quelques mots, en quelques phrases, il dit l'essentiel. Wagner dit l'essentiel aussi, mais avec, au contraire, un sens de, si vous voulez, du temps qui est différent. Cela dit, l'un comme l'autre exige une pensée très profonde, une étude extrêmement exigeante. Et voilà, et là, quand ça se met à fonctionner, eh bien, voilà, bah on est heureux.
Mais je crois que ça fonctionne aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure à propos de Stravinsky, vous faites les notes. Je veux dire par là qu'il y a un moment où il faut aussi faire confiance à ce genre de compositeur. Il y a toute une nouvelle tradition qui s'est greffée sur Debussy, sur Ravel, de nouvelles, je dirais, conventions, un peu de pathos, d'agogique, qui sont totalement déplacées. Et quand vous êtes dans une espèce comme ça de respect du texte, en disant, faisant confiance à Debussy, comme on peut faire confiance à Stravinsky, à Ravel ou à Beethoven ou à je ne sais qui d'autre, on a aussi finalement l'essence même de la musique qui remonte.
Il faut s'immerger dans une partition avec la modestie de se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire et de s'approprier, mais sans se mettre devant. Oui, c'est très complexe. Il faut devenir un enquêteur. Il faut déterminer les routes principales, les chemins vicinaux. Et puis, vous devez en permanence avoir, comme un ingénieur du son, un sentiment de la géographie musicale que vous allez transmettre aux musiciens et aux auditeurs. Vous devez devenir le hautbois, vous devez devenir le chanteur, vous devez devenir le trombone, les cordes. Et vous en imprégnez totalement pour essayer de trouver ce chemin de liberté organique sans lesquels la musique ne trouve pas ses marques. C'est très très complexe, hein. C'est très très complexe. Mais ça a l'air facile quand ça marche très bien. Et parfois, on met des heures, des dizaines d'heures à trouver les clés. Vous êtes compositeur, mon cher Bruno. Vous savez aussi, parfois, comme le disait Berlioz, qu'on peut être déçu par les interprètes qui n'ont pas compris l'essence de votre pensée. Et c'est là, je crois, où le mystère, la magie et en même temps la beauté de nos métiers, c'est quand le créateur rencontre l'interprète et que tout d'un coup, il y a un phénomène de compréhension et d'osmose qui se réalise.
Je crois qu'on a besoin de légèreté, cher Jean-Claude, après à la fois votre déclaration, je dirais c'est presque une déclaration d'intention, c'est presque une profession de foi, et l'écoute de ce quatrième acte de Péléas, si on écoute un petit peu de Darius Milhaud. l'irrésistible swing d'Amérique du Sud de notre cher Darius Milhaud avec cet extrait, cette fin du Bœuf sur le toit. Milhaud, c'est un compositeur qui compte beaucoup dans votre parcours, Jean-Claude.
D'abord, c'était un homme que j'ai bien connu, sous la direction duquel j'ai joué quand j'étais jeune musicien au conservatoire. J'étais très lié avec sa femme aussi, qui habitait à 300 mètres, enfin quelques centaines de mètres de chez moi, à Montmartre. C'est un homme bienveillant, c'était un homme généreux, c'était un homme gentil, comme Poulenc d'ailleurs. Ils s'entendaient très très bien tous les deux. Ils avaient même été voir Schoenberg, si mes souvenirs sont exacts, pour un tout petit peu un tout petit peu comprendre ce qu'il était et sa musique. Et il était secrétaire, comme vous le savez, d'ambassade, secrétaire de Claudel, lorsque Claudel était ambassadeur au Brésil. Et il a été fasciné par cette musique, qui représente aussi d'une autre façon le côté solaire de la Méditerranée, et qui a des ombres de fado qu'on peut rencontrer, mélancoliques, au Portugal ou au Brésil. Et puis en même temps, c'est samba, batucada, rumba, qui sont l'essence même de la vitalité brésilienne. Et ce Bœuf sur le toit est quelque chose d'assez assez spectaculaire et particulier. Mais j'avais enregistré aussi pour lui une autre œuvre dont Berriot, qui était un de mes grands amis, Luciano Berriot, m'avait dit, il est rentré avec l'œuvre dont je vais vous parler dans le panthéon des compositeurs contemporains, c'était les Coefforts. Et on se dit, c'est très étonnant qu'il ait au fond, un tel éclectisme. Il a fait La création du monde, qui était un hommage aussi au jazz. Il fait le Bœuf sur le toit. Et Les Coefforts, c'était une œuvre inouïe à partir des Euménides, qu'il a écrite avec des chœurs qui chantent en trois tonalités, avec un ensemble de 13 percussionnistes, avec une voix. Et on se dit que cet homme extraordinairement prolixe avait, et son Christophe Colomb aussi, où il y avait 13 chanteurs, je crois, était capable des plus grandes fresques musicales et en même temps d'une ludicité qui nous rend joyeux aujourd'hui quand on entend cette musique.
Et il y a sûrement beaucoup à redécouvrir dans le corpus immense de Darius Milhaud, qui a écrit, je ne sais plus, 400, 500, 600 œuvres.
Oui, c'est ça, il y a 600 opus, je crois. Mais alors, tout n'est pas de la même veine, tout n'est pas de la même qualité. Bon, mais il y a une appétence, si vous voulez. On parlait de la... Vous aimez la cuisine, vous aimez la grande gastronomie, moi aussi, votre émission est dédiée au plaisir. Eh bien, lui, il avait une truculence du son, une truculence des notes. Il était comme Victor Hugo, pouvait pas se réveiller chaque matin sans écrire 50 vers, mais lui, il écrivait des notes. Voilà, il écrivait des pour parfois notre plus grand plaisir, et quelquefois, bon, c'était pas forcément d'une veine géniale, mais il avait cette espèce de goût pour la culinaritude musicale, si j'ose dire.
Jean-Claude, c'est une grande joie de vous accueillir dans cette émission. Il va falloir qu'on fasse un volume 2, un de ces jours, avec Mahler, avec d'autres compositeurs qu'on n'a pas écoutés et qui vous tiennent tant au cœur. Je lance déjà l'invitation.
Vous êtes trop gentil, c'était un plaisir.
Merci d'avoir partagé avec nous ces menus plaisirs, aujourd'hui consacrés à Jean-Claude Casadesus. Merci à toute mon équipe, l'attaché de production était Annie Comier, l'ingénieur du son Pierrick Charles, à la réalisation Géraldine Prüttner. Dans quelques minutes, après les communiqués et le journal de 19h, vous pourrez poursuivre votre soirée sur France Musique avec Édouard Four et Colfuti et ses carnets de voyage. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Passez une belle semaine. Au revoir.